RCF.
Dans la chronique dit pourquoi, cette semaine, nous retrouvons Mustapha Bensafi. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chercheur CNRS au Centre de recherche en neurosciences à Lyon, au laboratoire CNRS, INSERM et Université Lyon 1. Vous effectuez des recherches sur l'olfaction et votre rêve, eh bien, c'est de redonner l'odorat à ceux qui l'ont perdu. Et justement, avec la Covid, eh bien, à quel point l'anosmie, c'est-à-dire la perte d'olfaction, a-t-elle pris une ampleur très particulière, Mustapha ?
Alors, effectivement, depuis la crise Covid, on entend beaucoup parler des troubles olfactifs, donc des anosmies notamment, la perte totale. Mais en fait, cette anosmie, ces troubles olfactifs étaient présents bien avant, mais on n'en parlait pas assez. Avant la Covid, en moyenne, il y a entre 1 et 5% de la population mondiale qui souffrait de perte olfactive totale. Et c'est surtout les personnes âgées, même si ça peut toucher des jeunes. Et puis, il y a entre 15 et 19% de la population qui ne souffre pas de perte totale, mais qui souffre de perte partielle. On appelle ça l'hyposmie. C'est une forme de myopie olfactive. Et donc, tout ça, ça nous amène à 20% de personnes dans le monde qui ont des problèmes avec leur odorat. Et dans la grande majorité des cas, on s'en rend pas toujours compte. Et puis avec la Covid, depuis 2 ans, eh bien, est apparu ce phénomène où il y a environ une personne sur deux qui est positive à la Covid, eh bien, qui va avoir un trouble olfactif. Et là, dans la grande majorité des cas, dans environ 2/3 des cas, des personnes qui sont positives à la Covid, c'est une anosmie totale. Donc je vous laisse imaginer le nombre de personnes aujourd'hui qui souffrent en fait d'anosmie. Alors c'est une anosmie dans la Covid qui peut revenir assez rapidement à la normale. Au bout de 2 semaines, une grande majorité des personnes retrouvent leur odorat. Mais on en a quand même une proportion non négligeable qui, après 6 mois, 1 an, souffre toujours de perte olfactive.
Quelle est leur incidence sur leur quotidien ?
Alors, ces pertes olfactives, elles sont pas sans effet sur la qualité de vie, effectivement, des personnes, sur, par exemple, des tâches quotidiennes comme préparer un plat, faire des tâches ménagères. Il y a une grande proportion des personnes qui souffrent d'anosmie, qui vont, par exemple, quand ils vont repasser leur linge, laisser le fer sur le linge et pas se rendre compte qu'il y a une odeur qui doit signaler un danger en fait. Il y a une influence sur la perception des aliments. Les aliments vont avoir un goût de carton par exemple. Et puis il peut y avoir une incidence également sur nos interactions avec les autres. Comme on n'a plus de contrôle de nos propres odeurs corporelles, eh bien on ne sait pas si on sent bon, si on sent moins bon. Et donc on peut soit laisser tomber, soit utiliser beaucoup de parfums, soit se doucher beaucoup. En fait, ça va modifier votre comportement social et c'est pas sans effet sur votre anxiété, votre niveau de stress. À tel point que il y a environ 1/3 des personnes qui souffrent d'anosmie, à la suite de la prise de conscience de cette anosmie, eh bien, ils vont développer. Alors certains diront une dépression, d'autres diront vont déprimer. Mais en tout cas, ça va influencer significativement leur stress, leur anxiété et leur qualité de vie.
Est-ce qu'il existe des traitements ou des exercices olfactifs qui permettraient de retrouver progressivement l'odorat ?
Alors il y a 3 formes de traitement aujourd'hui. Il y a la médication pour certaines maladies, mais en fait ça marche pas pour tout. Par exemple, vous pouvez avoir des traitements à base de stéroïdes qui vont influencer le passage de l'air dans votre nez. Mais effectivement, c'est pas destiné à tout le monde. Et puis, par exemple, si vous avez des polypes dans le nez, on peut avoir accès à la deuxième famille de traitements, qui sont les traitements chirurgicaux. Donc là, on va vous enlever les polypes. Et puis, il y a une troisième famille de traitements qui sont basés en fait sur un entraînement olfactif, des exercices de remédiation olfactive, mais qui sont en fait beaucoup plus lents. Et ce n'est pas la solution miracle parce que ça ne marche pas chez tout le monde. Alors, ces exercices, ils consistent en fait à sentir des odeurs de manière quotidienne, une, deux fois par jour. Et puis, tout ça, pourquoi? Pour essayer de réveiller votre système olfactif et notamment la partie périphérique aussi de votre système olfactif, qui est située dans la cavité nasale. Et l'idée, c'est de dire, bon, ben, en stimulant les cellules de l'odorat qu'il y a dans le nez, on va peut-être réveiller quelque chose et stimuler en fait le renouvellement des neurones olfactifs et donc par la suite induire une perception olfactive chez ces personnes. Pour vous donner des chiffres, quand on a une anosmie, une perte de l'odorat, à la suite par exemple d'un traumatisme crânien, d'un accident, eh bien là, si vous ne faites pas d'exercice, dans 10% des cas, assez rapidement, vous retrouvez l'odorat. Mais si vous faites un exercice olfactif, un exercice d'entraînement, dans 30% des cas, vous allez retrouver l'odorat. Donc l'entraînement n'est pas une solution magique, mais elle booste les performances de récupération naturelle. Et dans les anosmies qui vont suivre une infection, donc on appelle ça une anosmie post-infectieuse, comme par exemple celle en lien avec la Covid-19, la récupération naturelle assez rapidement, hein, dans les 2 semaines, 1 mois, c'est environ 30%. Et si on fait de l'entraînement, on monte à 2/3. Donc là, on double les chances de récupération.
Alors vous, chercheur, vous rêvez en fait d'une sorte de prothèse olfactive, une sorte de nez bionique.
Alors effectivement, c'est le challenge de la communauté scientifique. Donc c'est un challenge qui n'est pas simple du tout. Pourquoi? Parce que c'est un challenge qui doit considérer plusieurs disciplines afin de reproduire le parcours que va avoir une molécule odorante quand elle s'accroche au récepteur et ensuite quand cette interaction entre la molécule odorante qu'il y a dans l'environnement et le récepteur va induire une odeur, une perception olfactive. Donc ici, le challenge, c'est quoi? C'est de reconstruire des capteurs artificiels qui vont pouvoir détecter des molécules qu'il y a dans l'environnement. Ensuite, ces capteurs artificiels, il faut qu'ils transmettent un signal digital à un stimulateur qu'on pourrait mettre au niveau du système olfactif. Et ensuite, ce stimulateur, il faut qu'il envoie une stimulation qui va être interprétée par le cerveau. Alors, il y a effectivement la nécessité que cette prothèse soit plutôt miniaturisée. Alors, miniaturisée, on ne parle pas de millimètres, hein, on parle de quelque chose qui serait acceptable pour une personne, et afin que ce soit vraiment utilisable. Et en fait, pour réaliser tout ça, il y a tout un travail en amont pour montrer, pour prouver que c'est jouable. Et ça, c'est ce qu'on appelle la preuve de concept.
Et c'est justement tout l'objet d'un très gros projet que vous venez de lancer, qui s'appelle le projet Rose. Alors, est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus pour qu'on comprenne de quoi il s'agit, Mustapha Ben Safi, s'il vous plaît?
Le projet Rose, c'est un projet, c'est un financement européen relativement important. Alors en termes de budget, c'est quand même un projet à hauteur de 3 millions d'euros. Et en termes de mobilisation de partenaires interdisciplinaires. Alors c'est un projet à l'origine qui part de notre laboratoire à Lyon. Donc on est spécialiste en neurosciences et en sciences cognitives, on va dire, de l'odorat. Et on a travaillé avec deux laboratoires dans des projets indépendants. Un laboratoire d'olfaction clinique en Allemagne, à Dresde, et puis un laboratoire beaucoup plus appliqué, une start-up qui a émergé du CEA, qui s'appelle la société Aribal. Alors, avec nos collègues allemands, on faisait des études essentiellement chez des patients, et avec la société Aribal, eh bien, on a essayé de travailler avec eux sur cette idée de nez artificiel, de prothèse. Et ensuite, au fur et à mesure, ces deux projets ont convergé avec l'idée bien de créer un consortium européen qui puisse intégrer plusieurs champs disciplinaires qui vont nous aider à aboutir à cette preuve de concept de prothèse olfactive. Alors, qu'est-ce qu'il nous faut comme discipline ? Il nous faut des nanotechnologies afin de développer des capteurs miniaturisés. Et là, c'est le rôle d'un partenaire, donc du laboratoire LETI au CEA, qui vont développer ces capteurs miniaturisés. Il nous faut des stimulateurs miniaturisés. Et donc là, c'est l'École polytechnique fédérale de Lausanne, en Suisse, qui va développer ces stimulateurs. Il faut des laboratoires qui vont être capables d'intégrer ces capteurs et ces stimulateurs et de les intégrer également, de pouvoir designer cette preuve de concept. Et là, on a deux laboratoires importants. La start-up Paribal, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui est basée à Grenoble, et l'école polytechnique de Milan, Polymi, qui sont spécialisées dans le design mécanique. Et puis, on a également besoin de laboratoires qui vont être spécialisés en olfaction clinique, avec différentes populations de patients. On a notre partenaire à l'université de Dresde et puis un partenaire en Grèce. Donc on a un partenaire à l'université de Dresde en Allemagne et un partenaire à l'université de Salonique en Grèce. Et puis il faut également des connaissances sur la psychologie de l'odorat, la neuroscience de l'olfaction. Et donc ça, c'est le rôle de notre laboratoire, le Centre de recherche en neurosciences de Lyon.
Eh bien, merci beaucoup. On a hâte de savoir la suite de vos recherches, Mustapha Ben Safi. Vous êtes chercheur CNRS au Centre de recherche en neurosciences de Lyon, un labo CNRS, INSERM et Université Lyon 1. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et à bientôt.
Merci à vous.